France Inter.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Aujourd'hui, émission spéciale depuis le Salon du Livre Athéna, à Saint-Pierre-de-la-Réunion. On est au bord de l'océan, donc vous allez entendre un petit peu de vent. Nous parlerons du langage et particulièrement de la manière dont le créole et les langues vernaculaires en général peuvent constituer un acte de résistance face au traumatisme et à l'injustice.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
Alors d'abord, nous recevrons Catherine Bardon avec Une femme debout, publiée aux éditions Les Escales. Dans cette fresque qui relie Haïti à la République dominicaine, le créole résonne comme une langue de résistance transmise de mère en fille. À travers la figure de Maria Carmen et de ses descendantes, dont la célèbre Sonia Pierre, l'autrice raconte l'exil, la dignité et la lutte silencieuse des femmes Vagnan. Ces femmes debout, fortes et fières, le roman nous rappelle qu'une langue, c'est un pays que l'on porte en soi. Puis direction Madagascar avec la poétesse slameuse Naassi qui publie son premier roman « Deux cœurs dans mon corps » aux éditions Projectile. Ici les voix se confondent, s'enroulent l'une dans l'autre, une femme et son ombre, un cri et son écho. Entre malgache et français, le texte devient un corps bilingue, traversé par la mémoire coloniale, les secrets familiaux et les mots qu'on n'a jamais osé dire. Et enfin, nous retrouverons le poète mahorais Jarjari Askandari qui publie « Clin d'œil aux ténèbres » également chez Projectile. Sa poésie violente et tendre à la fois explore la blessure du père et la transmission du silence. En français et en kibushi, il érige un chant de réparation, un geste qui affronte les ténèbres pour y trouver un peu de lumière. Trois livres, trois îles de l'océan Indien et des Caraïbes et une même urgence, parler dans la langue qui nous a fait mal pour qu'elle devienne enfin une langue qui nous sauve. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Catherine Bardon, Naassi, Jarjari Askandari, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Vos trois livres s'ouvrent sur des voix très distinctes, la voix de la résistance créole et des femmes Vagnan. On dit femme Vagnan, Catherine Bardon ?
Oui, une femme vaillante, une femme debout, une femme résistante.
La voix intérieure fragmentée de l'ombre pour Naassi et la voix plurielle, presque incantatoire du kibushi, chez Jarjari Askandari. Le kibushi, c'est la langue mahoraise.
Tout à fait, c'est la deuxième langue présente à Mayotte.
Alors, qui parle exactement dans vos livres ? Catherine Bardon, je commence par vous. Chez vous, c'est une voix militante, la voix de Carmen et la voix de Sonia.
Oui, alors, la voix qui parle dans le livre, c'est celle de Sonia, c'est-à-dire la militante des droits humains qui a combattu toute sa vie pour le droit des apatrides, Sonia Pierre, des apatrides et des migrants haïtiens en République dominicaine. C'est aussi la voix de sa mère qui lui transmet cette langue créole haïtienne dans laquelle elle va être élevée, mais dont elle va devoir finalement se libérer pour pouvoir porter son combat dans un pays hispanique. Et donc, effectivement, il y a ce passage d'une langue à l'autre, du créole à l'espagnol. Et c'est d'ailleurs la maîtrise de l'espagnol qui va lui permettre de s'impliquer dès 13 ans dans une première lutte, manifestation d'ouvriers haïtiens, puisqu'elle va servir d'interprète, étant la seule dans le village de Cooper de Cannes à maîtriser l'espagnol. C'est elle qui va servir d'interprète avec les administrateurs de la cannerie, de l'industrie, pour porter les revendications des ouvriers.
On le voit, la langue est au centre de votre livre. Chez vous, Naassi, c'est le cas aussi, avec cette première personne du singulier qui est complètement éclatée. Et la réponse se trouve peut-être dans votre exergue. Vous dédiez votre livre à ces enfants qui ont du mal à se construire parce qu'ils sont nés sur les ruines de leurs parents. J'ai trouvé cette phrase très belle. Qu'est-ce qu'elle veut dire ?
Quand on est enfant, quand on est sur quelque chose qui n'existe pas, quand on est de parents éclatés, comme vous avez dit, quand on est issu d'une génération de parents qui ont du mal à se chercher, des parents qui ont été muselés dans le non-dit, comment nous, on trouve notre expression dans tout ça ? Et la quête de l'enfance, ça a toujours été une question primordiale pour moi, ça a toujours été une quête personnelle, même au-delà de l'écriture. Et à chaque fois que je me pose la question, quel enfant on est ? Et même la question qu'on pose actuellement, c'est quelle planète, quel monde on va laisser à nos enfants ? Et donc cette orientation, parce que quand on est parent, on a quand même un droit d'accompagnement, on a un devoir d'accompagner, d'orienter. Et quand nous, on ne sait pas où est-ce qu'on en est...
Oui, quand les parents sont cassés eux-mêmes, oui, comment peuvent-ils transmettre?
Oui, et nous, on appartient à une génération où il faut se construire, mais quelles que soient les ruines de nos parents, comment on fait? Et ça a été une ouverture, même dans mon premier recueil qui est sorti en 2021 aux éditions Ranzasu Publishing, qui commence aussi avec un vers qui fait comme ça, comment prendre racine quand on est sur des sables mouvants? Et donc vraiment cette question d'existence, d'ancrage sur quelque chose qui est en mouvement, on ne peut pas prendre racine sur quelque chose qui bouge. Et en tant que fille de l'île entourée d'océans, c'est encore plus important.
Votre livre commence justement avec cette phrase qui me rappelle celle que vous venez de citer. Je suis Marao, Marao c'est l'enfant. Je suis Marao, j'ai grandi dans un ventre qui n'a pas voulu de moi. Entre sauver sa vie et la mienne, ma mère a choisi les deux. J'ai été élevée par ma grand-mère, j'ai vécu dans l'ombre, j'ai toujours été une ombre. Il m'a fallu des années pour le comprendre, pour me comprendre. Marao, cet enfant, devient l'incarnation de tous les enfants.
Marao, c'est un nom commun. C'est un nom commun dans un dialecte du sud-est de Madagascar qui veut dire enfant, plus particulièrement une fille. Et justement, j'ai choisi de ne pas mettre de prénom. Donc le livre, il n'y a aucun prénom là-dedans. C'est vraiment tous des noms communs, justement pour dire que c'est l'histoire de personne et c'est l'histoire de tout le monde en même temps, malheureusement.
C'est là où le jeu devient universel. Oui. Jarjari Askandari, vous, est-ce qu'on peut dire que votre livre est un champ de réparation? Comment vous le définissez?
Mon livre, il porte des voix. Parmi ces voix-là, il y a celle du poète qui revient dans son enfance pour trouver du sens à son présent. C'est l'une des voix qui porte le recueil. En effet, il y a cette dimension réparatrice, parce que quand l'enfance a été éclatée en morceaux, on ne peut pas vivre le présent de manière sereine. C'est un retour pour coller, entre guillemets, pour accepter.
Pour recoudre, comme
recoudre,
dit Anna Assis,
oui, pour
dans son
prendre
livre.
Un vocabulaire médical, pour recoudre, c'est ça, c'est exactement ça. Pour recoudre et puis accepter surtout ça, accepter et puis aller de l'avant.
Catherine Bardon, Anna Assis, Jarjari Askandari, l'autre point commun de votre livre, c'est la transmission. Comment hérite-t-on d'une langue, d'une mémoire, d'une blessure? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on transforme? On se retrouve dans un instant pour en parler, mais avant ça, on écoute Damso et Saracet, Papa Po.
Souvenir, t'es parti pour ne plus revenir. Du mal à vérifier si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. Clic, clac, papa, pao, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Du mal à vérifier si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. En pleurs sans les étoiles qui scintillent plus au bal de la nuit. Comme des épaves qui s'accumulent au bord de la rive. Tu m'attires un peu plus tous les jours, je le sens. Ton train de vie coûte cher, je crois que je vais perdre de l'argent. Mais le risque de l'amour,
c'est d'y croire seul en étant à deux.
Traumatisé car un jour,
j'ai cru si fort en perdre les yeux.
Depuis devenu malhonnête car honnêtement je n'aime plus les gens. L'amour le vrai coûte cher et je ne veux plus perdre de l'argent. Clic, clac. Papa, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Du mal à vérifier si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. Clic, clac. Papa, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Du mal à vérifier si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en place.
Tu ne sais plus l'entendre, on a déjà essayé. Tu sais que ça on pourrait que tu me manques, car je ne sais plus qui tu es. Je voulais que tu m'entendes mieux, mieux. Mêler, les mots n'ont fait que s'en mêler. Pleurer, pleurer, les jeux de larmes étaient noyés. Mêler, on ne savait que s'abîmer. Je préfère que tu restes un souvenir.
Clic-clac, papa parle, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité, celle quand les yeux sont en face. Clic-clac, papa parle, la vie n'est plus qu'un souvenir. T'es parti pour ne plus revenir. Dis-moi la vérité, si mon cœur est bien en place. Dis-moi la vérité.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de Catherine Bardon, Naassi et Jarjari Askandari sur une plage de La Réunion à Saint-Pierre où se tient le salon du livre Athéna. On n'a plus envie de repartir. Et nous sommes aussi avec Vanille Poirier de la librairie Autrement à Saint-Pierre. Car au salon du livre, on remet aussi un prix, le prix du livre Athéna. Et vous étiez dans le jury. Vanille, en quoi consiste ce prix ?
Alors c'est un prix auquel j'ai l'honneur de participer depuis maintenant 3 éditions. Et c'est un prix, donc cette année le thème du salon était pensée, littérature, éloquence. Le but, nous sommes 5 dans le jury, le but effectivement est de recevoir tous ces textes. Cette année on en a eu beaucoup, on a eu 46 romans en tout qui ont concouru. Et le but est effectivement de se retrouver, de discuter, d'échanger et de... Il y a le texte qui correspond le mieux, en tout cas pour nous, au thème du salon.
Et donc cette année, la lauréate, c'est ?
Cette année, la lauréate est Catherine Bardon qui est avec nous pour Une femme debout. Et ça a été effectivement le choix du jury. On a beaucoup échangé sur ce texte.
Et qu'est-ce qui vous a plu à vous ?
Ce qui nous a plu, au-delà de ce personnage au destin exceptionnel de Sonia Pierre, c'est aussi tous les liens qu'on peut faire avec La Réunion. On a trouvé beaucoup de points communs avec La Réunion et son histoire. Donc ça nous a beaucoup touchés.
Et vous avez lu aussi le livre de Naassi.
Oui, tout à fait.
Qui vous a bien plu, je crois.
Que j'ai eu le plaisir, oui, de découvrir et que j'ai trouvé très, très touchant. Et c'est vrai qu'on ressent dans l'écriture toute cette poésie et le fait d'écrire du slam et de la poésie, ça se ressent. C'est un roman très musical et... avec beaucoup de force aussi.
Et c'est vrai que c'est un roman avec une langue très, très, très particulière.
Oui, oui.
Merci beaucoup, Vanille.
Okay.
J'en parlais tous les trois. Dans vos livres, Catherine Bardon, Naassi et Jarjari Askandari, il est aussi question de transmission. Naassi, vous voulez, je cite, « recoudre les liens brisés et guérir la toute première blessure ». Est-ce que ça, c'est une manière de protéger les nouvelles générations ?
Peut-être bien, parce que les blessures, c'est sûr qu'on ne pourra pas être indemne de tout ce qui arrive. On ne peut pas non plus éviter aux blessures d'exister et peut-être de se dire que les blessures se soignent.
Elles sont de quel ordre, ces blessures ?
Elles sont d'ordre historique, elles sont d'ordre familial, elles sont d'ordre personnel, existentiel et surtout, ces blessures, elles sont d'ordre identitaire. Parce que qu'est-ce qui nous fait tenir debout ? Qu'est-ce qui nous fait exister ? Qu'est-ce qui nous offre notre place dans le monde aussi vaste comme il est ? C'est notre identité. Et encore, l'identité, elle est mouvementée, elle n'est pas figée, elle change tout le temps. Et c'est ça, en fait, la question principale. Comment on s'identifie à tout ce qui nous entoure sans être dérouté et ne pas être blessé par tout ça ?
Jarjari Askandari, la blessure identitaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ?
La blessure identitaire, oui, parce que de là où je viens, en général, lorsque...
Mayotte,
en effet. Lorsque l'humain est silencieux, ça veut dire qu'il y a un problème.
Et parmi ces problèmes-là, il y a la parole qui est absente.
C'est quoi? C'est les non-dits?
C'est les non-dits, les tabous, les expériences traumatisantes qui n'ont pas en fait un espace pour rejaillir, pour avoir un écho commun. Ça fait partie, je pense, de notre histoire. Il est évident pour moi, en tout cas, il y a une urgence à proposer un espace qui nous permet de dire ce qu'on a vu, de dire nos blessures, de crever les silences qui nous hantent.
Pourquoi ? C'est quoi les conséquences de ce silence ?
En général, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il y a, en tout cas chez la femme, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle les tumbas. Les tumbas, c'est-à-dire les esprits des ancêtres. Donc les femmes, pour se soigner, ils entrent dans le tumba. Et c'est le tumba qui favorise en fait la libération de la parole et donc le processus de la guérison. Et c'est dommage parce que le tumba sollicite énormément le corps de la femme et l'esprit. Et en général, quand la femme elle est habitée par le tumba, elle n'est plus la même parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont sollicitées. Et en général, tout au long de sa vie, elle n'est plus elle-même. C'est la seule voie de guérison possible.
Et chez l'homme ?
Et chez l'homme, justement, l'homme a tendance à tout porter, à tout garder.
C'est quoi ? C'est la violence qui ressort ?
Ça peut être la violence, mais chez l'homme, il a tendance à se tourner vers aussi le tumba. Mais il y a l'autre versant, soit vers l'alcoolisme. Et ça cause énormément de dégâts.
Catherine Bardon, vous, à travers votre livre, vous vouliez transmettre un modèle de lutte dans la mémoire, à travers la mémoire de Sonia Pierre ?
Oui, alors moi c'est différent puisque moi je porte la voix d'une personne, d'une contemporaine, mais je ne suis pas dans ce problème identitaire et ce métissage culturel. Mais oui, c'est la voix d'une femme qui a un pied dans un pays, un pied dans un autre, deux pays très différents finalement, un pays noir, un pays métis.
Je vous coupe un instant, Catherine Bardon, est-ce que vous venez quelque part un peu de vous justifier, enfin en tout cas de dire que pour vous c'était différent. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la légitimité, par exemple, de vous emparer de ce personnage de Sonia Pierre ?
Non, je ne me suis pas posé la question de la légitimité dans la mesure où son combat m'a paru tellement légitime, son existence, enfin, cette vie complètement consacrée à cette lutte, à la fois féministe et à la fois humanitaire. Je me suis dit que c'était juste de le faire et que comme c'était une personne qui avait été beaucoup muselée, beaucoup combattue, non, j'ai trouvé juste et légitime de le faire. Et je me suis dit que si je ne le faisais pas, peut-être
cette femme,
personne ne le ferait. Et à vrai dire, elle est très peu connue. Enfin, elle est très peu connue en France, mais elle est connue aux États-Unis. Elle a été multi-récompensée.
Vous avez mis une photo, notamment à la fin du livre. Enfin, il y a plusieurs photos. Il y a une photo avec Michelle Obama et Hillary Clinton en 2010.
Parce oui, elle a reçu le prix de la Fondation Kennedy, elle a reçu des prix d'Amnesty International et puis d'autres prix internationaux.
Pourquoi elle est peu connue en France ?
Elle n'est pas connue en France parce que le problème migratoire est très différent, parce qu'il y a un problème de langue, on parlait de langue, donc anglais, espagnol, créole, mais pas français. Il y a un océan qui nous sépare aussi, et je pense qu'il y a aussi une population haïtienne importante aux États-Unis. Elle a été accueillie aux États-Unis puisqu'elle a été exilée pendant un an parce que sa vie était menacée, donc je pense qu'il y a une territorialité qui s'explique en fait. L'important, c'était pour moi autant de la faire connaître que d'éclairer ce combat et de dire que finalement les problèmes migratoires sont universels, difficiles à résoudre, peut-être sans solution, mais en tout cas que c'est un enjeu majeur des décennies à venir et que cette femme est un exemple de femme qui a lutté pour ça. Alors pour revenir sur le problème de la langue, de la culture, c'est aussi une personne qui a eu une vie complexe puisqu'elle était, encore une fois, d'une culture et d'une autre, d'un pays métis, mais originaire d'un pays noir, avec une culture, une langue créole, une culture vaudou, dans
et
un pays hispanophone.
Justement, le lien entre la langue créole et la langue espagnole, vous en parlez très bien. J'aimerais que vous nous lisiez un extrait de votre livre où on voit justement aussi à quel point la langue peut être un problème. Je vous laisse lire cet extrait et on en parle.
4 jours après la naissance, André obtint une demi-journée de congé à titre exceptionnel. Il devait se rendre à Villa Altagracia pour déclarer le bébé. Maria Carmen voulait l'appeler Sonia. André était d'accord, il était toujours d'accord avec elle. L'officier d'état civil l'intimida au point qu'il en perdit toute assurance, sa fierté de venir déclarer son enfant battu en brèche par la condescendance du fonctionnaire. Solange Pierre, annonça-t-il avec un accent haïtien. Le stylo en suspens, le gratte-papier le dévisagea les yeux ronds, fit une moue de sa grosse lippe entre mépris et interrogation. « Répète-moi ça », grogna-t-il d'un ton revêche. Un sourire craquelé de méchanceté s'invita sur son visage. « Solène Pierre !» s'efforça André en s'appliquant à détacher les syllabes. À cet instant, André eut honte. Honte de ne pas parler l'espagnol, honte de cet accent qui le dénonçait, tout comme ses vêtements poussiéreux et la couleur de sa peau. En plus, il n'était pas marié avec Maria Carmen et leurs enfants portaient le patronyme de leur mère. Il baissa la tête, coupable et humilié de se sentir coupable. « Solène Pied !» écrivit l'officier d'état civil, retranscrivant ce qu'il entendait sans se soucier de plus.
Alors dans ce passage, le mot de honte, il est assez fort. Cette expérience de l'état civil, beaucoup de gens l'ont vécu. Je pense notamment aux immigrés, même en France, métropolitaine ou ailleurs. Enfin, c'est vraiment un sujet très connu et puis souvent raconté. On voit aussi à quel point la langue peut être aussi une violence, Catherine Bardon.
Oui, parce que la langue, c'est aussi l'appartenance à une communauté. Et ne pas maîtriser la langue de la communauté dans laquelle on veut s'inscrire, c'est très difficile, c'est très douloureux. Enfin, en l'occurrence, en République dominicaine, les Haïtiens sont très méprisés. Et effectivement, le fait qu'ils ne partagent pas la même langue les dénonce immédiatement. Il y a beaucoup d'exemples historiques, dont un massacre, un génocide d'une, on dit, trentaine de milliers de personnes, où les Dominicains, l'armée dominicaine, faisait prononcer aux Haïtiens, pour savoir s'ils étaient Haïtiens ou Dominicains, puisque la couleur de la peau ne suffisait pas à identifier, le mot persil, perejil. Et les Haïtiens ne peuvent pas prononcer ce mot. Et avec cette difficulté de prononciation, ça les désignait, ils étaient tués. C'est le massacre du persil, on appelle ça le massacre du perejil, qui a été, je crois que c'est en 1937, si ma mémoire est exacte, sous l'époque de la dictature de Trujillo.
Georges Harry, j'aimerais vous faire réagir à la question de la langue comme violence.
Il faut l'inscrire dans une perspective historique, parce que par exemple, chez nous, à Mayotte, la langue comme violence, par exemple, la présence de la langue française, elle est perçue comme étant violente parce qu'elle met beaucoup de gens de côté. C'est-à-dire que finalement, et c'est ce qu'on n'a pas encore fait à Mayotte, on n'a pas encore fait notre procès historique face à l'esclavage. Et tout ça, en fait, ça fait partie des choses, des non-dits. Et ça a des répercussions chez nous. Chez le peuple maoré, parce qu'on a depuis refusé d'ouvrir cette page et puis de l'aborder peut-être de manière sereine ou de manière violente, mais en tous les cas d'aborder cette période-là. Ça fait partie des choses qui nous hantent énormément, parce que ça se voit. Il y a le réel qui le dit, mais on n'assume pas. Personne.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est quoi, c'est à l'école, par exemple?
À l'école, oui, parce que l'école est le médium par excellence. Il faut l'aborder. Et puis chez nous-mêmes, au sein de nos familles, parce qu'il y a encore ce tabou. On refuse d'accepter que nous sommes des colonisés. Parce que finalement, quand on regarde dans notre région, il y a les Comores qui sont indépendantes. Il y a Madagascar qui est indépendant. Mais Mayotte n'est pas indépendante.
Donc c'est quoi? C'est une forme de honte, pour reprendre le mot de Catherine Bardon?
Pas forcément une forme de honte, mais à un moment donné, il faudrait, je pense, oser aborder notre relation avec la France et donc la présence de cette langue qui peut être violente. Mais en même temps, cette langue, elle est la nôtre. Elle fait partie aussi de notre identité. Vous voyez là, je parle en français, j'écris en français.
Bien sûr, le français fait aussi partie de ma langue. Mais il faut l'interroger. Il faut l'interroger dans l'espace dans lequel il est. Parce qu'il n'est pas forcément neutre. Parce qu'il met des choses à l'écart. À la périphérie, il y a beaucoup de violence due à sa présence aussi.
Nassi, la langue comme violence, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous venez de Madagascar.
Est-ce que vous permettez que je lise un poème?
Ah bah, avec plaisir, avec grand plaisir.
Parce qu'il m'est assez difficile en fait de m'exprimer au-delà de la littérature, au-delà des poésies. Et pour répondre à ça, je vais vous lire un texte qui peut
avec
répondre à la question. C'est un poème qui s'intitule « Malgache qui es-tu ?» qui est paru dans mon premier recueil de poèmes. On a fouetté nos ancêtres et on en garde les cicatrices. On a effacé leur histoire et on est né amnésique. Je suis une enfant des blessures qui n'a pas réussi à extraire le pus. On pénètre par mes fissures pour décomposer ma figure. On me place devant eux pour qu'ils me servent de miroir. Et mon visage se déforme quand je me vois dans leur regard. Par les fenêtres de mon âme, on infiltre ma mémoire pour effacer le peu de traces qui me restent de mon territoire. Et je perds mon identité, en supposant que j'en ai eu. Mes repères, je les ai perdus avant d'avoir mené la guerre. Quand on apprend son histoire dans une langue étrangère, on se sent vite un intrus sur sa propre terre. On se déchire en morceaux, pour se dire malagasy ou malgache. Le fi Havane n'a pas en lambeaux et on finit nu et sans attache. Être, paraître, mieux connaître, toujours et encore dans les mots. Pas sur ce qu'on a à se dire, ni sur ce qu'on a écouté. Juste assez pour se maudire et juste assez pour s'insulter. On a fouetté nos ancêtres, maintenant on se frappe nous-mêmes. On va plus mal qu'on veut l'admettre car la souffrance est restée dans nos gènes. On a effacé leur histoire et on refuse d'en écrire une autre. C'est mieux de se croire maudit plutôt que de faire un pas pour son pays. Merci.
Merci Nassi. Qu'est-ce qu'il raconte ce poème? Il y a une phrase que j'ai relevée. Quand on apprend son histoire dans une langue étrangère, on se sent vite un intrus sur sa propre terre.
Oui, parce que l'éducation à Madagascar se passe en français. Pour un pays avec 6 ou 7% ou 2% de francophones. Et c'est assez étrange, en fait, quand on nous oblige à parler une langue qui ne nous parle pas. C'est assez paradoxal parce que pour moi, je suis francophile, même si j'ai étudié dans les écoles publiques primaires. J'ai toujours été dans le système éducatif malgache. J'ai pas été dans une école française et tout. Et moi, je parle français parce que j'aime la langue française. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et c'est compliqué à chaque fois.
Vous pensez qu'on devrait avoir le choix?
Oui, on doit vraiment avoir le choix et imposer une langue qu'on parle peu, qu'on refuse de parler. Et en même temps, on moucate quand on parle pas français, les gens. C'est assez compliqué. En fait, on a un rapport très compliqué avec la langue, surtout la langue qui nous a été imposée.
Nassi, Catherine Bardon, Jarjari Askandari, on se retrouve tout de suite.
J'ai le cœur qui flambe quand je te vois. J'ai toute ma mémoire qui rêve de toi. Je peux écouter quand c'est ta voix. J'ai pas la force d'aller contre toi. J'ai mal dit mon dernier mot. Si je devais faire attention à toi, j'aurais dit encore une fois. T'es pas vrai pour ce qui t'attend.
imagine cet instant de paix. Est-ce qu'on trouvera le temps de s'asseoir? J'ai vraiment envie de savoir pourquoi tu ne me demandes pas autant de sentiments que j'en demande de toi. Mais t'es pas prêt pour ce qui t'attend. Je veux pas être un passe-temps. Serre-moi fort, casse-moi, serre-moi fort. Quand je vois, je fonds, fonds, fonds.
C'était Casse-toi de Luz and the Yakuza et nous sommes toujours au Salon du Livre Athéna avec Catherine Bardon, Naassi, Jarjari Askandari sous le beau soleil de Saint-Pierre de la Réunion. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc. Lilia Hassen.
Catherine Bardon, on vient de parler il y a quelques instants avec Naassi de l'importance d'enseigner peut-être en malgache. Pour le cas de Madagascar. Vous aviez une question, Catherine Bardon, à poser à Naassi.
Oui, je voulais vous demander si, finalement, la meilleure façon de grandir et de se sortir de ce grand écart, c'est pas de considérer que c'est une richesse supplémentaire, de justement maîtriser une autre langue, de compléter sa culture par une autre culture, en fait, de s'enraciner aussi dans une culture... différente. Moi, je prends le cas de Sonia Pierre. C'est quelqu'un qui a énormément grandi parce que irrigué par deux cultures très différentes et deux langues différentes qui lui ont permis d'ailleurs de s'imposer comme un interprète entre deux mondes.
Oui, et je suis vraiment et entièrement d'accord. Et je peux en témoigner parce que moi, j'écris en français et en malgache. Et c'est effectivement ce que je fais dans l'écriture et l'exemple que j'essaye de montrer par rapport à ce rapport à la langue. Et surtout que, comme je l'ai dit, pour moi, la langue française, c'est vraiment une langue d'ouverture. Ça m'a permis vraiment d'être là, par exemple. Ça m'a permis de plus exprimer ce que j'ai à l'intérieur, tout comme j'écris en malgache aussi. Et surtout que pour moi, au stade où j'en suis actuellement, pour moi, il n'y a pas une langue qui soit plus forte, plus supérieure, plus importante qu'une autre. Pour moi, la langue, c'est un outil. Pour moi, la langue, c'est une manière de s'exprimer. Pour moi, la langue, c'est quelque chose qui... C'est une clé qui peut ouvrir des portes. Et donc, c'est ce que j'essaie de transmettre à travers l'écriture en français et en malgache, justement, pour dire que la langue, c'est un chemin qui mène partout. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais en tout cas, je pars de mon expérience, de cette écriture, de cette poésie, de toute cette langue qui se mélange pour ouvrir cette voie. Mais je ne peux pas parler à la place des autres parce que je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Mais en tout cas, je vois beaucoup qui font face à d'autres problèmes identitaires.
Oui, quand on ne maîtrise pas très bien le français, par exemple, ça peut être effectivement douloureux même d'apprendre.
Oui, mais moi en même temps, mon chemin d'écriture, il passe par la langue. Et justement, comme vous dites, c'est vraiment un chemin, c'est vraiment une ouverture, c'est vraiment un enrichissement.
Naassi, votre texte commence par une invitation. Je t'invite à être moi. Le monologue initial se transforme en une entité collective à la fin. Je est devenu autre, l'autre c'est toi, c'est aussi moi, enfin c'est nous.
Oui. Alors ça, c'est un rapport avec l'histoire, parce que l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est née d'un viol, qui est restée silencieuse. Dans tout le livre, cela n'est pas dit explicitement. Je rejoins mon frère de Mayotte, là, qui a parlé du silence, des conséquences du silence et tout.
Vous travaillez le silence aussi.
Oui, il y a ce silence-là, en fait, qui nous plonge dans la solitude. Il y a le silence qui nous permet d'être avec nous-mêmes, d'avoir ce dialogue avec soi et tout. Mais il y a le silence destructeur, le silence qui empoisonne. Et dans les non-dits, surtout quand on départ d'histoires qui existe, qui plane autour de nous, qui nous entoure, qui nous enveloppe, mais avec sa part de poison.
Vous parlez de
c'est
poison.
Difficile.
Il y a cette phrase à un moment dans votre livre, la vipère menace de mordre.
Oui.
C'est qui cette vipère? C'est quoi?
La vipère, c'est une métaphore, mais elle a vraiment beaucoup de significations. Peut-être le lecteur pourra avoir son propre ressenti. Mais pour moi, ça peut être le serpent de l'Éden. Parce qu'on est un pays catholique, on est un pays très chrétien. Ça peut être aussi le sexe masculin qui viole la fille. Ça peut être le serpent dont on a peur, mais au final, pourquoi la femme a peur du serpent si on dit que c'est la femme qui a parlé au serpent? En fait, c'est vraiment quelque chose de paradoxal, et le serpent peut être un indicateur de danger pour certains, mais aussi de force et de courage, parce que quand on voit quelqu'un tenir un serpent, on se dit c'est courageux. Donc c'est vraiment cette métaphore de force et de faille, de courage et de crainte en même temps.
L'écriture chez vous, Naassi, c'est aussi un rythme. Vous parlez des crises d'asthme, vous employez le verbe suffoquer, et je pensais à Marcel Proust, qui est aussi un écrivain asthmatique. Est-ce qu'être slameuse comme vous, quand on respire mal, c'est un avantage, c'est un inconvénient? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que ça provoque?
Moi, j'ai trouvé que dans cette écriture, l'asthme, c'est, je sais pas, c'était la seule maladie, le mal-être qui m'empêchait de sortir les mots. Parce que personnellement, je ne suis pas asthmatique, mais j'ai vu des gens asthmatiques, j'ai eu des proches asthmatiques, et je me suis renseignée sur l'asthme. Et c'est vraiment ce moment où on a mal, mais on n'arrive pas à dire, parce que même respirer, on n'y arrive pas. C'est vraiment
difficile. Et vous avez la sensation d'étouffer par moment?
Oui, beaucoup, beaucoup. Et l'écriture m'aide à respirer.
Jarjari, je vous fais réagir dans un instant, mais d'abord, on écoute Alain Peters, Reste la Maloya.
Zinguez Joseph, par obligé à son prêtre, t'es parti fait campagne, ou c'est pas quel chalmaille, car on dit t'es belle paille, là où la montagne, comme celle résolution, pas une seule députation. Zinguez bien l'incompréhension, l'été vraiment total, dès qu'il dit ça va, n'a pas normal. Si la place de la réunion, ou bien d'un ici débutant, quand il était la morale, zoté à mal. Malgré zot, figuier l'un de mes coups de vent, et devait voir que ça n'avait plus de vent. Reste la malouya, reste la malouya, reste la malouya, reste la malouya. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la main. Mon 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 gâté, l'air là qui passait pour avoir fait à moi. Oui, ton garçon Alain, n'a aussi mon fils, d'un homme d'Adéville, la condition papa, c'est le masque le plus en bas. Pas tous les jours, moi l'été pour toi un bon soutien. Y'a peu de moi, la fait plus mal que bien. Ah, oh, bon, il n'aurait pas pu faire ça, tu la fait pour moi. Quand tu la ramasses, ça me donne sommeil. Faut pas qu'on couple avec le refrain. Sans trop route qui côté ça y vient. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la main. Reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la maloya, reste la main. Si t'es pas facile, pas penser pas difficile, pour les bagages baissés, voyez vos combinés. Pas au Bogoville, trouvez à trop votre l'île, pas trop martyrisé, avec toute la t'il a fait. Si ton île veut bien serrer, allez, couci le bon vin, pas si ton pote le rompt avec tout le vin. On dira
maloya, reste la maloya, reste la maloya.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours au Salon du Livre Athéna avec Catherine Bardon, Naassi et Jarjari Askandari à Saint-Pierre de la Réunion. Jarjari Askandari, dans votre livre « Clin d'œil aux ténèbres », j'ai l'impression que votre démarche rejoint celle de Naassi, celle de partir de l'individuel pour aller vers l'universel. Vous écrivez « Mariam est la voix plurielle des absents partis au-delà des mers qui reviennent souffler en silence à l'oreille de l'enfant resté sur le seuil de l'océan ». Ma question est la suivante, comment la poésie, par sa scansion, le rythme que vous choisissez, dit quelque chose de plus que la langue en prose?
La poésie a ceci de spécial. Je pense que pour le poète, la poésie est la clé sans limite pour dire le monde. Parce que finalement, c'est ça la liberté du poète. Quand il a l'horizon dégagé pour dire les choses comme il veut, comment il veut, avec les mots qu'il veut. Et donc je pense que c'est avec la poésie que j'arrive à mettre à jour les absents, parce que Mariam, ce sont ceux qui sont partis. Et donc c'est avec la poésie que j'arrive à aller chercher les voix qui ne sont plus. C'est un outil pour moi, en fait, d'être au monde, de me raccrocher au monde présent et au monde qui n'est plus. Donc c'est un outil par excellence pour le poète.
D'ailleurs, vous écrivez « Aucune lutte ne se gagne sans l'écorce d'une voix d'outre-tombe. La pièce forgée dans mes entrailles réhabite l'orgueil à prendre les armes, à fendre les privilèges du sang prophétique, à ériger un horizon du savoir tout monde. » C'est quoi le savoir tout monde?
Le savoir tout monde, c'est en référence à Édouard Glisson, avec son concept de tout monde, de la relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une île, mais cette île ne doit pas être une prison, un enfermement. C'est-à-dire qu'au-delà de notre histoire, au-delà de cette réalité qui nous avale, je pense qu'on est en droit de s'ouvrir au monde. Et parmi l'ouverture au monde, ce sont les textes. C'est la création qui va nous permettre de nous répandre et de mettre en réseau cette notion de tout monde. Et dans cette citation que vous venez de citer, il y a quand même un cri à la révolte. Parce que quand un peuple est opprimé, on n'entend plus sa voix. Et donc la seule chose à faire, c'est prendre les armes et puis se révolter.
Ou écrire.
Mais dans mon cas, est-ce que l'écriture, parce que je...
Est-ce que l'écriture est une arme?
Est-ce que l'écriture est une arme? Et surtout, est-ce que ça serait parlant vis-à-vis de mon peuple? Parce que là, je suis sur France Inter, mais à Mayotte, je suis invisible. C'est-à-dire, les mots n'ont pas leur place là-bas. Et donc, j'en appelle forcément peut-être à une culture de contestation. Et c'est ça l'idée de votre citation que vous avez lue tout à l'heure.
Vous aussi, vous êtes un homme fort, Catherine Bardon. Aucune lutte ne se gagne sans l'écorce d'une voix d'outre-tombe. C'est presque une phrase que vous auriez pu mettre en exergue de votre livre.
Oui, ou une autre que j'aime bien, c'est le livre doit être une hache qui brise en nous la mer gelée. C'est-à-dire nous faire prendre conscience, nous ouvrir la voie, nous mettre face à certaines réalités. Après, chacun prend sa position, mais au moins, voilà, présenter des choses, montrer des choses, en parler et faire en sorte que chacun puisse s'approprier aussi la problématique, la lutte, le combat.
Jean-Jacques, est-ce que je peux vous laisser lire la postface de votre livre ?
Chaque mot que je prononce en kibushi est une déclaration d'amour à cette langue. L'utiliser est un geste à la fois intime et politique, un acte modeste mais puissant de résistance symbolique. Car dans une société où le rouleau compresseur de l'assimilation écrase tout sur son passage, les langues locales sont trop souvent reléguées au rang d'obstacles. On les accuse d'échecs scolaires, on les stigmatise comme des freins à l'émancipation dans un espace encore hanté par les traces de l'habité coloniale. Ces poèmes que je déploie portent en eux les blessures profondes d'une mémoire marquée par l'esclavage et la colonisation. Cette mémoire s'inscrit dans la chair même de la société mahoraise, jusqu'à dans la structure de ces villages. Elle perpétue des mécanismes d'exclusion, reléguant dans l'ombre celles et ceux que l'histoire désigne comme descendants d'esclaves.
Alors vous parlez de rouleau compresseur de l'assimilation. Est-ce que vous voulez dire par là qu'à travers les langues vernaculaires en général, c'est l'histoire qu'on veut effacer ?
Justement, tout à l'heure...
L'oubli des langues vernaculaires.
Oui, justement, tout à l'heure, m'avait dit que finalement, pourquoi ne pas considérer la langue française comme une richesse ? Mais bien entendu, il faut tendre vers cela. Mais selon les contextes, cette langue française peut devenir rapidement un rouleau compresseur qui efface les autres langues en présence. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord que finalement, il y a cette notion de relation, que toute langue en contact avec les autres s'enrichisse. Mais il ne faudrait pas que la langue française vienne effacer nos langues, et c'est-à-dire effacer notre culture, nos identités. Et c'est là où, aujourd'hui, on voit à Mayotte que finalement, on devient des êtres hybrides, ou voire des apatrides identitaires. On ne maîtrise pas forcément la langue ou les valeurs françaises. Et de l'autre côté, on est perdu face à nos identités locales. Donc on est entre deux choses qu'on n'arrive plus à nommer. Ce n'est même plus un métissage, mais c'est quelque chose, je dirais, d'abominable, parce que ça touche l'individu.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Il faudrait faire, je pense que c'est de l'ordre politique. Il faut, je pense, mettre les choses sur les tables des deux côtés. Accepter qu'il y a une culture qui est présente, des langues riches, une histoire qui est riche. Il y a aussi la présence de la langue française qui est enrichissante. Et puis mettre au même niveau les langues en présence. Sans cela, les gens sont frustrés. Et sans cela, les gens se rebellent. Et c'est encore cette posture de...
Et la domination de la langue.
La domination de la langue.
Cette domination, elle passe par quoi ? Enfin, concrètement, c'est quoi ? C'est l'administration ?
C'est l'administration, parce que, par exemple, à l'école, quand certains enseignants disent « Ah, ne parle pas votre langue », on dit « L'école française n'accepte pas les langues au sein de ses murs ». Mais ça veut dire quoi ? On est dans une situation de plurilinguisme. Il faut que les autres langues rentrent à l'école. Parce que ce ne sont pas des enfants vides qui viennent à l'école. Ce sont des enfants qui ont leur langue, leur propre langue maternelle. Et si on ne les considère pas, et si on ne prend pas ces langues en considération, comment voulez-vous que ces élèves-là puissent prendre en considération la langue française ? Et c'est là tout l'enjeu de mon travail aussi, de ce clin d'œil.
De remettre au même niveau. Et d'ailleurs, dans votre livre, c'est ce qu'on voit, c'est que vous mettez les deux...
Mais bien entendu.
Les deux langues. Catherine Bardon, est-ce que cette question se pose aussi en République dominicaine entre l'espagnol et le créole ?
Non, pas du tout. Pas du tout, puisque le créole reste l'apanage des Haïtiens qui constituent une communauté très à part, très méprisée, vrai dire.
Comment ? Ils sont minoritaires ?
Ils sont minoritaires, oui, bien sûr, oui, oui. Mais ils sont quand même nombreux, puisqu'ils sont presque 3 millions dans un pays de 12 millions d'habitants, grosso modo.
Donc à travers le rejet de la langue, il y a une sorte de...
Il y a le rejet de la communauté, de la bien sûr, et de l'envahissement silencieux, c'est comme ça qu'on l'appelle, de cette communauté dans le pays. Je me demandais d'ailleurs si, en fait, c'est pas le problème de tous les métissages culturels, c'est-à-dire le problème de tous les exils, cet apprentissage d'une autre langue, d'une autre culture, et cette espèce de métissage intime qu'on doit...
J'entends, mais il faudrait quand même que... La politique et puis l'approche, parce que nous, dans les Outre-mer, par rapport à l'Hexagone, à Paris, la vision, elle est tout autre. On a tendance à imposer. C'est-à-dire, tout ce qui vient de Paris, on impose. comme s'il y a un vide total. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. L'idéal serait de mettre tous ces éléments au même niveau. Parce que c'est une question d'individu, c'est une question d'identité. On ne peut pas venir effacer l'identité des gens.
Mais vous parlez du rouleau compresseur de l'assimilation. L'assimilation, c'est le modèle justement français hexagonal, oui. Par définition.
Oui, oui. Mais parce que tout simplement, il faut que la France doit se mettre à jour. Parce que le monde a changé. Mmh. Le monde a complètement changé. Et parmi ces changements, il y a l'exemple de Mayotte. Il y a l'exemple de Mayotte avec ses langues en présence. Et si la France ne fait pas attention, et malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, on a des familles mahoraises qui choisissent la langue française au sein de leur foyer. C'est-à-dire qu'on a des enfants mahorais qui ne parlent pas ni les kimahorais, ni le kibushi.
Et est-ce que ça, c'est un problème ?
Mais bien entendu, c'est un problème.
Et est-ce que la France métropolitaine, ce que je veux dire, c'est vraiment, je parle de la France hexagonale, là, ne pourrait pas reconnaître aussi elle-même ses autres langues comme des richesses ? Parce qu'on vous a posé la question à vous, du français comme richesse,
oui.
Mais après tout, on pourrait voir aussi les choses de manière différente et inversée.
Mais, et pourquoi elle ne le fait pas ?
Catherine Bardon, Naassi, Georges Harry, Askandari, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission au Salon du Livre Athéna à Saint-Pierre de la Réunion. Merci au Salon pour son accueil chaleureux et au restaurant L'Horizon à Saint-Pierre qui nous a accueillis aujourd'hui sur sa magnifique terrasse de bord de mer. Catherine Bardon, on recommande votre livre qui a donc obtenu le prix Athéna, Une femme debout aux éditions Les Escales, un roman ample et sensible porté par la mémoire des fans vagnants, ces femmes qui tiennent debout pour toutes les autres. On conseille aussi votre livre Naassi, Deux cœurs dans mon corps, dans lequel on trouve cette phrase magnifique. Je les envie tous, ceux qui ont la foi, ceux qui croient en quelque chose, ceux qui ont trouvé les réponses à leurs questions, ceux qui s'en foutent, ceux qui continuent d'avancer sans savoir où ils vont. En somme, j'envie tous ceux qui ne sont pas moi. C'est superbe et c'est aux éditions Projectiles, tout comme votre livre, Georges Harry Askandari, Clin d'œil aux ténèbres, un recueil puissant et habité où la poésie devient un champ de résistance. Je veux remercier également l'organisation du salon et notamment Fabienne et Tatiana, ainsi que notre libraire du jour, Vanny Poirier, de la très belle librairie Autrement à Saint-Pierre de la Réunion. Merci à nos auditeurs réunionnais et merci à tous les autres de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, nous avions Lilian Allôme à la réalisation, Estelle Gap et Ophélie Vivi à la programmation. Et je rappelle que cette émission est réalisée en coproduction avec la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Merci à nos partenaires donc et à la semaine prochaine.